Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo qui sait enlever ses vestes, mais surtout les prendre. Au programme aujourd'hui, on va s'intéresser à la Groupama FDJ, Godu dans le mal sur Paris-Nice, Lenny Martinez sur le départ. Faut-il s'inquiéter pour l'équipe tricolore? On parle aussi de Tirreno, des casques de la Jumbo, d'Alaphilippe qui ne tient plus sur un vélo, la Visma, ça a changé, un peu de cyclisme féminin, et pour terminer, un zoom sur UAE, est-ce la nouvelle superpuissance sur les grands tours, et un quiz pour finir en conclusion parce qu'on me l'a demandé. Et avec moi aujourd'hui, il vit la Dolce Vita en Italie, c'est James Edwards qui est là. Vous allez voir, il y a un meilleur son aujourd'hui, un super fond, ça c'est l'Italie.
Ouais, c'est l'air italien, c'est génial. Bonsoir à tous.
En Italie, pas pour le tourisme, évidemment, il est là-bas pour Tirreno Adriatico et les Strade Bianche, bien sûr, avant. Et celui qui décrypte et se délecte des interviews de James, c'est Théo, qui est avec nous. Bonjour Théo.
Salut, alors par contre, se délecter, c'est un bien grand mot. Quoi? Parce que souvent les questions sont plus longues que les réponses.
Ah, donc, ouais, mais ça, c'est comme ça. Il garde l'esprit, comme dans Ça déraille. James a besoin de prendre un peu la parole, il a besoin de s'exprimer, et on va lui laisser du temps aujourd'hui, puisque nous sommes tous les trois, il y a un petit peu plus de temps, pour parler de beaucoup de choses, et notamment eh bien, de la Groupama FDJ. On va commencer bien sûr avec la première partie. On monte sur le vélo, c'est le moment d'assurer le tempo.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Et si on s'intéresse à la Groupama FDJ aujourd'hui, c'est parce que, bon, il y a eu ce petit problème pour David Godu qui a voulu enlever sa veste aujourd'hui sur l'étape de Paris-Nice, qui s'est planté, qui est tombé et qui n'a pas réussi à revenir. Donc, première inquiétude, même si on avait déjà quelques doutes sur la forme de David Godu ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis aussi cette information qui prend de plus en plus d'ampleur, Lenny Martinez sur le départ. On a peur pour la Groupama FDJ. On va commencer déjà avec le français pour parler des tricolores avec Théo. Déjà, rien que sur l'étape de Paris-Nice, est-ce que tu penses que c'est plus la chute qui a embêté David Godu? Il a pris 6 minutes hein, aujourd'hui, il a lâché. Ou est-ce que tu le sentais quand même un petit peu moins bien depuis le départ de cette épreuve et même aujourd'hui?
Bah, le truc, c'est que quand on me demande si on doit s'inquiéter pour la Groupama FDJ, je suis un petit peu inquiet, certes, mais plutôt inquiet qu'on pose la question. Parce que finalement, aujourd'hui, la Groupama FDJ, elle est sixième du classement UCI sur le classement lycée entre 2023 et 2025. Je suis allé regarder tout à l'heure, je savais qu'elle était très haute. Mais bon, elle est quand même très bien placée. Elle a déjà gagné 4 fois cette saison, avec Lenny Martinez 2 fois, une fois en World Tour avec Laurens Pitti. Laurens Pitti a porté le maillot de leader sur Paris-Nice. Romain Grégoire a fait 2 en Ardèche derrière le leader de Tirreno actuel, Juan Ayuso, et celui qui a battu Remco Evenepoel au sprint aujourd'hui, Skiel Moseux. Bon, pour Godu, bah, malheureusement, ça m'aurait davantage inquiété si c'était une défaillance à la pédale. Finalement, cette défaillance, elle est provoquée par quelque chose. Certes, c'est un élément dont il est entièrement responsable parce qu'il n'a pas, je pense, à enlever son vêtement dans ce final-là. En revanche, si tu me demandes si je suis inquiet sur le temps présent, j'aurais tendance à te dire non. En revanche, en effet, les nouvelles qui nous arrivent du potentiel mercato futur, elles incitent pas en tout cas à l'optimisme. La Groupama FDJ est plutôt victime finalement de son centre de formation, finalement, puisque Romain Grégoire et Lenny Martinez, on savait que c'était des pépites françaises. C'est la Groupama FDJ qui les a signées. Bah forcément, on s'attend parfois à ce que, vu le potentiel, qu'il y en ait un des deux, peut-être qui aille ailleurs. Et malheureusement, contre l'argent des superpuissances, on va pas pouvoir faire grand-chose.
Bon, on va essayer d'avoir le sentiment pour James. Alors, c'est vrai que David Godu a eu cette chute. Après, il a lâché psychologiquement aussi pour prendre ses minutes et pourquoi pas faire autre chose hein, dans un Paris Nice qu'il connaît bien, surtout qu'il a terminé deuxième l'année dernière. Est-ce que ça va être une déception? On verra bien. Mais surtout, c'est avec la Groupama FDJ qui a déjà perdu Arnaud Démare l'année dernière. Se cherche aussi un côté sprinter. On cherche aussi la relève.
Ouais, bon, alors, vu le début de saison d'Arnaud Démare, je suis pas sûr que pour l'instant ce soit arrangé au rang de perte.
Ouais, pour l'instant, c'est vrai que ça va. Surtout
faire l'avocat du diable.
Surtout avec les performances de Lorenz Pitti. Mais après, si Lenny Martinez, par exemple, avec les infos qui sont données, s'en va, il restera plus grand monde dans la maison, surtout que David Godu est quand même dans une forme oscillante. James, es-tu inquiet, toi?
Pas plus que ça.
Bon, bah merci, James. Non, vas-y, je te laisse la parole.
On voulait qu'il fasse court, ouais. Il a fait court. Hein.
Aujourd'hui, j'ai pris le parti de faire des réponses courtes. Moi, j'ai tout donné, donc je vais être concis. Pas plus que ça.
Non, mais vas-y, mais tu non, as mais... le droit de t'exprimer.
Mais non, mais effectivement, au niveau du sprint, pas d'inquiétude. Pitti fait le job. Derrière, il ne faut pas oublier que Paul Penouette est encore blessé. Il va revenir, donc lui aussi fera des résultats. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas plus inquiet que ça. Maintenant, c'est vrai que Godu ne rassure pas des masses et en plus voilà, il commet des erreurs un peu voilà, regrettables pour lui et surtout pour son matricule, sachant que Martinez vole pour l'instant. C'est surtout ça, son statut de leader indiscutable en prend un coup. C'est surtout ça en fait qui est inquiétant. Après, comme tu le dis si bien, bah, voilà, la FDJ collectivement ça roule, donc plus un kick pour Godu que pour Groupama en soi.
Ouais, parce qu'en soi, finalement, sur l'estradé, Madouas, même sans être incroyable, ouais. je l'ai trouvé en progrès et je ne suis pas sûr de toute façon que ce soit le principal objectif d'être à 122% là maintenant. Moi, j'ai trouvé une montée en puissance pour Madouas. Finalement, les seuls hicks, c'est, comme tu l'as dit, les blessures longues, finalement, qui ont. Il y en a pas mal, finalement, quand tu fais le. Quand tu fais le compte, tu as parlé de Paul Penouette évidemment pour les sprints, mais il y a Rudy Mollard qui s'est bien tapé en Australie, il y a Vandenberg, il y a Konovalova, c'est pour ça que Gruel est passé, je pense, là en World Tour, dans la World Team en tout cas, directement dès maintenant, parce que je pense qu'en termes d'effectifs, ils étaient assez courts. Et malheureusement aussi, il y a un gros coup dur, autant personnel que sportif. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Stéphane Kung. Et là, on est loin du sport d'ailleurs. Mmh, ouais. D'ailleurs, grosse pensée à sa famille, ses proches. Parce qu'en plus, c'est pas la. Si on est un peu cynique, c'est pas la plus belle période, même s'il n'y en a pas. C'est pas la meilleure période dans laquelle ça arrive. Donc, le seul hic, c'est finalement Godu, oui, qui perd pied aujourd'hui. Mais finalement, c'est sur un incident, c'est sur un fait de course. Et moi, de ce que j'ai vu, il était quand même encore bien placé dans la montée. Enfin, il n'était pas, aux abois. Quoi. Ouais. Donc,
mais malheureusement, voilà. ça lui met une pression supplémentaire.
Oui.
Il va devoir montrer des choses au public français. On le connaît, il est exigeant.
C'est lui qui tire le wagon. La Groupama FDJ aujourd'hui, c'est lui qui doit tirer le wagon. Si en plus Lenny Martinez s'en va, il a encore plus de pression sur les épaules. C'est ça aussi.
Ben, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher une étape d'ici la fin de ce Paris-Nice. Si ce Paris-Nice va à son terme, évidemment, parce que j'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des sommets enneigés. Mais voilà, il va falloir rapidement montrer quelque chose, si pas sur ce Paris-Nice, sur la prochaine course en tout cas. pour rassurer un peu tout le monde et lui-même.
On me le rappelle dans le chat, Cactus sur un vélo, qui dit qu'il y a aussi Thibaut Gruel qui vient de signer, enfin qui est de.
Oui, d'ailleurs, je le salue parce qu'il a dit exactement ce que j'ai dit. Donc,
voilà, ouais, bon, bah, c'est.
Et promis, j'ai pas regardé.
Mais Thibaut Gruel, donc, qui va rejoindre, enfin, qui va rejoindre l'équipe en 2024 un peu plus tôt que prévu, il devait arriver l'année prochaine. Tiens, James, garde la parole, qu'est-ce que tu penses? Alors, on parle de Lenny Martinez chez Bahreïn. C'est une bonne idée, toi qui as un regard un peu extérieur, parce que nous, on est très franchouillard.
Ben, je peux comprendre la tristesse des fans que forcément un coureur français aussi talentueux quitter le cocon de la Groupama, forcément ça suscite une tristesse. Mais derrière, moi je vois un seul avantage, c'est justement il pourra fuir la pression médiatique un petit peu de la France. C'est peut-être en soi la bonne nouvelle. Peut-être qu'il a construit là l'un des premiers ingrédients pour pouvoir éventuellement briller autour plus tard. Ah. Voilà, si j'essaie d'être optimiste.
Ah, puis sincèrement, vous, sportivement, c'est pas.
Il y a la place à Bahreïn.
Pas une aberration. Oui. Je pense que la Bahreïn victorieuse, en termes de coureur de grand tour, elle va arriver à un fin de cycle parce que Jack Egg, il a fait ses années. Peyo Bilbao, c'est pareil, ça va commencer un petit peu à serrer. Mohoric, on sait qu'il est très fort sur les classiques, sur les courses d'un jour, mais ce sera jamais un coureur de grand tour. Mm. Vu le budget et vu l'ossature qu'on peut avoir du côté de la Bahreïn, on a perdu Landa, je le rappelle, cette intersaison-là. Donc il y a un espace pour un coureur comme Lenny Martinez. Et puis après, quand on parle de chiffres, si on suit les chiffres qu'on nous annonce, qu'on a lu un peu dans la presse, c'est-à-dire quasiment 1 million d'euros pour sa première saison, et ensuite évidemment, on le sait, avec des coureurs très jeunes, vous savez que les contrats ensuite, d'année en année, on progresse
jusqu'en 2040. De
manière assez forte, ouais. et parfois sans condition de résultat d'ailleurs. C'est ce qui peut parfois un peu influer sur les performances de ces messieurs. Mais forcément, vous pouvez vous poser des questions. Hein. On n'a pas réussi en France à gagner une course par étape dans les équipes françaises depuis 2007 et le Dauphiné. Donc forcément... Il y a une petite musique qui vous revient que c'est pas forcément dans les meilleures équipes françaises qu'on va gagner des très belles courses. Enfin, voilà, je comprends évidemment la déception des fans et évidemment on est tous très heureux qu'un Français court pour une équipe française. Maintenant, on n'a pas déclenché de push quand Romain Bardet est parti à la DSM ou quand Warren Barguil courait pour la Sunweb. Je pense que c'est des coureurs très aimés également en France, donc je vois pas pourquoi ça ferait. Tant scandale que ça, quoi.
D'ailleurs, il y a des comparaisons hein, dans le chat. Hein, on dit comme Bardet chez DSM. Alors, pour le coup, sans vouloir manquer de respect à DSM, il y aura peut-être plus de moyens chez la Bahreïn pour entourer Lenny Martinez s'il y a besoin à l'avenir, et, évidemment. Et on me dit aussi que par rapport à l'image, c'est pas vraiment top pour Lenny Martinez. C'est vrai que la Bahreïn.
C'est le seul, pas... finalement. Ouais. Oui, c'est le seul. Le seul écueil de cette potentielle décision, c'est que c'est certes au niveau de l'éthique, que ce soit au niveau du sponsoring ou au niveau de ce qui a pu se passer avant, à savoir les petits raids qu'il y a eu sur les tours précédents. En effet, c'est pas du plus bel effet.
Sans parler du staff, évidemment.
Ouais, voilà. Bon, ça encore, nous n'avons aucune preuve dans notre besace puisque nous sommes de très mauvais enquêteurs, mais de très bons experts. Bien sûr, vous avez fait vos devoirs, vous avez regardé Paris-Nice. On va enchaîner parce qu'on a parlé de la Groupama FDJ. Maintenant, ça y est, on va parler un petit peu de Belgique parce qu'aujourd'hui, il y a une belle étape, une arrivée au Mont-Brouilly. Bon, certes, c'est Santiago... qui s'est imposé en haut avec le maillot jaune de Luc Plap, mais derrière il y avait une petite bataille pour les favoris. On attendait le duel Remco-Primoz Roglic, et puis James, c'est Remco qui a pris un petit peu l'ascendant, qui a pris quelques secondes. On voit un Roglic un petit peu en retrait sur ce début. C'est tout bon pour un Remco un petit peu énervé depuis le début.
Bah, oui.
Quand est-ce qu'il n'est pas énervé?
Oui, bon, ça c'est aussi une autre question. Non, je veux... Voilà, on a des petits éléments. Oui, Remco est bien. Hein, Remco est,
ah oui.
il est là, ça c'est sûr. Maintenant, pour Roglic, moi je suis encore en point d'interrogation parce que sur les images que j'ai vues du Mont-Brouilly, ça m'avait l'air fort étroit comme route. Donc pour passer à la fin, il y avait quand même beaucoup de monde. Bah, je me dis en fait, là, les 2 secondes qu'il perd aujourd'hui, c'est peut-être juste à cause de ça. Donc je vais attendre avant de dire que Remco a pris le dessus sur Roglic. Mais néanmoins, Remco... voilà, est prêt pour le match de ce week-end s'il a lieu.
Tu vois, Johan, tu nous demandais tout à l'heure si on était inquiet pour la Groupama FDJ à cause de David Gaudu. La rentrée de la Bora, et en tout cas le début de saison de la Bora même si Vlasov a bien marché sur les courses espagnoles. Sur le chrono hier, c'était compliqué. Alors certes, il y a eu la pluie, etc. Ouais, et on a senti dans les interviews ce matin, pour les avoir dérochés un petit peu en profondeur, que malgré le petit sourire de façade et les communications sur les réseaux, etc., il y a eu un petit point hier soir de fait par Roglic. Je pense qu'on n'était pas très content du chrono par équipe. Aujourd'hui, c'était pas impérial. Donc moi franchement je le rangerais au même rang que Gaudu en termes d'inquiétude hein, parce que moi j'ai trouvé Primoz Roglic sur ce type d'arrivée, ce type d'étape, pour moi c'est podium minimum et moi il m'a pas fait une impression faramineuse.
Non, comme depuis le début de Paris-Nice, on le voit à chaque fois derrière Remco. Hein. D'ailleurs, en parlant de personnes un petit peu déçues de ce contre-la-montre par équipe, Remco Evenepoel a été déçu par deux choses, hein, pour être sur place à ce moment-là, pour avoir entendu un petit peu. Bon, il y a Tim De Klerk, je ne sais pas si tu as vu, James, il a tiré sur Tim De Klerk parce qu'a priori, il a laissé un petit peu traîner son vélo et ça a empêché à l'équipe de la Soudal Quick-Step de passer, donc ça a ralenti l'équipe. Et en plus, il s'énervait un petit peu pour te dire contre sa propre équipe, ça n'allait pas assez vite pour lui. Donc du coup, je me posais la question parce que ça commence à être un petit peu pénalisant. J'ai l'impression, son équipe, on sait qu'on essaie de construire autour. D'ailleurs, Patrick Lefebvre était là hein, sur Paris-Nice. Mais j'ai l'impression qu'il s'agace de... Bon, c'est quelqu'un de très agacé, hein, d'habitude, mais il s'agace de plus en plus de ne pas avoir assez
de soutien. Mais quel signal t'envoies si tu t'agaces déjà de ton équipe au premier contre-la-montre par équipe de la saison
hein. Je ne sais pas, mais...
Le signal que t'envoies, il est quand même pas fou. Hein.
James, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais voilà, c'est le ressenti, c'est les mots qu'il avait après la ligne.
Je pense que son plus grand ennemi, c'est sa tête. Ah. C'est-à-dire que la gestion des émotions, peut-être même pas pendant, mais après la course, ce n'est pas nécessaire d'aller tirer, de désinguer ses coéquipiers, fait ça en interne, régler ses comptes avec De Klerk. Après,
moi, James, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne comprends pas que l'équipe ne le protège pas davantage en termes de communication. C'est-à-dire qu'il s'exprime tout le temps après les étapes, avant, après, quasiment limite pendant.
C'est les feux heureux qui va le défendre alors qu'il tire sur tout le monde à chaque sortie.
Et franchement, pour avoir déjà... Bon, on a tous un peu côtoyé des directions de communication pour décrocher des ITV. Quick-Step, c'est pas facile d'avoir des... Enfin, ça reste ouvert, mais bon, il faut parfois négocier, etc. Moi, je m'étonne qu'une équipe comme cela, aussi professionnelle, avec autant d'habitude, ne le gère pas davantage sur ce point. Alors, peut-être que c'est lui qui a envie, mais je trouve qu'à un moment, il faudrait peut-être mettre un peu de couvercle, quoi, avant que ça explose.
Ah, ben, c'est... Moi, je m'étonne toujours qu'il n'y ait pas plus de stratégie autour de ses déclarations. Il y a un plan de com qui est fait autour de son marketing, de son sponsoring. On le voit sur des pubs, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Son image, il arrive à la vendre. Il y a un bon travail qui est fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans ses déclats, parfois, c'est pas cool. C'est pas cool pour Tim De Klerk, qui est un garçon tout à fait correct.
Il y a 6 mois son coéquipier, quoi, quand même.
Après, c'est toujours à chaud et il va s'excuser. Oui. Aujourd'hui, il s'est excusé. Mais malheureusement, il doit un peu maîtriser cette frustration. Quand ça ne va pas, c'est toujours un peu facile d'aller tirer sur les autres. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Bon, sur Paris-Nice, ça va, mais il ne va pas pouvoir faire ça au Tour de France dès le troisième jour, les désinguer comme ça. Et encore, sur un grand tour, pour gagner un grand tour, il faut construire un collectif, un bloc, une bonne ambiance. Pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, attention à ne pas tirer, à ne pas trop non plus mettre la pression sur ses coéquipiers. C'est comme ça qu'on part à la faute aussi.
Oui, garder son énergie aussi, c'est important.
Ne pas se disperser.
J'en fais quand même, en voyant pour l'instant Paris-Nice, j'en fais quand même mon favori. Pour l'instant, il est assez bien placé au général. On verra bien sûr pour ce week-end, parce qu'il y a encore de grosses étapes. On verra aussi si elles ont lieu. Mais en attendant, il y a d'autres coureurs. Assez rapidement, on a vu Skelmoseux, on a vu un Bernal aussi bien placé. Là, on parle beaucoup dans le chat. Attention, à Butrago, il peut gagner Paris-Nice. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces favoris outsiders qui tournent autour de cette première place? Vous avez plus d'attrait pour qui?
Arnaud Delis.
Anodoli, il est pas bien depuis sa main. Il vient sur Paris-Nice, il peut pas plier la jambe. Donc, bah après, c'est vrai que d'habitude, alors, il gagne avec une seule jambe.
Juste parce que j'avais envie de le mentionner, si on parle d'inquiétude pendant 10 secondes, ici, il y en a bien un qui m'inquiète, c'est lui.
Ouais, il est mais
pour les classiques.
Il avait vraiment du mal à plier sa jambe pour l'avoir vu sur le podium.
J'ai très très peur que les classiques ce soit compliqué. J'espère que non pour lui, mais j'ai des grosses craintes.
Bon,
mais voilà, pour répondre à la question numéro 1, bah oui, pourquoi pas avoir une petite surprise, hein, mais je pense que Remco, 30 secondes sur plat.
Moi, si tu me parles d'outsider, je mettrais Jorgensen quand même en 1, parce qu'il a l'habitude de cette course.
Jorgensen,
Félix Gall, s'il y a au rond, quoi. C'est ça le.
Et Bernal, hein, attention. Hein,
Bernal qui est très fort. Pour moi, je l'avais pas vu à ce niveau-là depuis, je pense, au moins 2 ans. Bernal, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Pour moi, je trouve qu'il a. Bon, c'est difficile de comparer, mais tu parles le niveau de 2019 quand il gagne le tour. Avec ces animaux-là de Remco, etc., je pense qu'il ne doit pas être si loin de son potentiel maximal, hein, de son prime. Hein. Donc, c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle.
Ouais,
Ineos, on reparlera de leur tactique de course. Mais
ah bah ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est droit devant, on se met toujours à l'avant et c'est assez bizarre. Mais au moins, il a pris, en tout cas, pour l'instant, le lead sur Carlos Rodriguez, hein, qui est présent aux côtés d'Egan Bernal.
Ouais. Rodriguez, pour l'instant, c'est pas brillant non plus.
Ouais. Hein. On parlera de UAE Emirates aussi un petit peu plus tard dans la deuxième partie parce qu'il cartonne un petit peu partout. Je viens voir le classement, alors c'est toujours sympa. Rigoberto Urán est dans le top 10, c'est toujours incroyable de le voir, il est toujours présent pour sa dernière saison parmi les professionnels, toujours discret mais toujours bien présent à son âge. On passe tout de suite dans attaque ou n'attaque pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans.
Attaque de Pierre Rolland encore une fois,
personne ne réagit.
Alors, il y a pas mal de choses. On peut parler des casques, on peut parler de Tirreno. On va en parler, bien sûr, James. On en profite avec toi. On peut parler d'Alaphilippe aussi. En parlant d'Alaphilippe, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur l'Estrade. Et malheureusement, ça s'est fini assez tôt. Il y a aussi Lotte Kopecky et Demi Vollering. Je voulais avoir ton avis, James, parce que les deux, elles sont bien tirées des cartouches comme il faut. Ça m'a bien fait plaisir. Et je pense que tu as 2-3 choses à dire dessus. On va commencer avec les casques. Tiens, dans l'ordre, peut-être que ça va intéresser Théo. Pour les casques de chrono, non, pas tant que ça. Ou alors, finalement, l'UCI. Donc, on a vu, pardon, les nouveaux casques de la Visma. Vous avez vu avec, en mode astronaute.
Chaussettes.
On avait déjà des anciens casques donc l'année dernière avec des cagoules qui vont être interdits par l'UCI, qui va se pencher dessus. Moi j'ai toujours l'impression qu'ils ont toujours 10 ans de retard, l'UCI, c'est incroyable parce que c'est pas comme si on les découvrait aujourd'hui, c'est juste que là il y a une nouvelle forme quoi. Personne ne parlait, a priori ça fait...
Non, mais franchement...
Moi je trouve que c'est bien qu'on réagisse quand même, peut-être un peu tard, mais... Je trouve ça bien parce que franchement, quand on les voit en action, je trouve ça ridicule. Aussi bien la cagoule que les casques, ça ressemble à rien.
C'est-à-dire que même leurs coureurs se foutent de la gueule des casques. Voilà. Donc, quand on a vu en référence à la publication d'Attila Walter sur Instagram, pour moi, c'est un peu des confettis, quoi, franchement.
Oui, mais c'est bien qu'on revienne à une forme de normalité. Parce que franchement, c'est plus ridicule qu'autre chose sur des chronos. Ça ne ressemble vraiment à rien au niveau du style. Tout simplement, c'est moche. Enfin, c'est impossible. Donc, c'est bien.
Et on se rapproche aussi du cyclisme, du cycliste de vitesse. C'est ce que fait François Pervis, je crois, l'ancien de la piste.
Non, mais ça illustre surtout l'argent qu'on peut mettre dans la recherche et développement pour gagner peut-être une demi-seconde au kilomètre. Quoi.
Ah,
donc,
oui.
Ouais. On parle de cyclisme pas de vitesse non plus pour le dopage et encore pour aussi dopage financier entre guillemets, c'en est un exemple malheureusement.
Et on parle aussi de la sécurité hein, parce que c'est vrai que les coureurs sont de plus en plus vraiment tête baissée sur leur machine pour gagner un maximum d'aérodynamisme et c'est vrai que il faut trouver des routes bien droites parce que au bout d'un moment
maintenant on a des consignes où le coureur il baisse la tête et c'est dans les oreillettes qu'on dit attention, le virage est dans 20 mètres. Quoi.
Donc, c'est compliqué. Tiens, Théo, question comme ça. Est-ce que Julien Alaphilippe, oui. C'est bientôt la fin? C'est une question que d'ailleurs de nos amis en roue libre qui posent la question. Est-ce que à force de chuter, il va rage quitter? Moi, j'ai peur. Hein. Moi, je te le dis, j'ai peur. Mais bon, après, est-ce que tu as un autre sentiment?
J'ai quand même tendance à dire que quand on enchaîne des trucs négatifs, ouais, en vélo, on a du mal à s'en sortir. Donc, pour l'instant, Tirreno, on n'a pas trop vu de grand-chose. Je pense que James, tu l'as plus vu que moi et plus parlé, plus vu évoluer. Je pense que James sera plus intéressant sur cette question.
Alors, allons-y.
Je déteste la question.
Ah, attends. bien sûr, c'est...
Bon, non, mais c'est juste... c'est du putaclic, quoi, cette question, bientôt la fin. C'est digne de sport.fr, quoi. C'est pas possible, ah, quoi. Non. Bah non, il n'est pas fini, doucement, il est dans une mauvaise passe. Oui, dans la tête, bah forcément, ça ne va pas trop, puisqu'avec toutes ces histoires en début de saison, les chutes, etc. Mais aujourd'hui, il était là dans le final pour replacer Merlier. Donc, s'il était vraiment à ce point-là à la rue, bah, il n'aurait déjà pas fait ça. Donc,
et c'était le cas déjà hier sur le sprint. Hein.
Oui,
déjà...
Voilà, et l'étape du jour, aujourd'hui, il y a plus de 5 heures de sel, il fait dégueulasse, il fait froid, ça pleut tout le temps. Franchement, s'il était cuit et mort pour le vélo, ben, il ne serait pas là. Voilà, donc non, pas fini. On peut encore voir quelques belles petites choses. Soyons optimistes pour lui.
Bon, ben, on est optimistes, on espère. Allez, on va parler juste... Alors, avant de parler sur Tirreno, dernière petite question. L'autocopéki d'Emi Vollering sur l'Estrade, on ne va pas parler d'Estrade homme parce qu'on a vu Pogacar, il est parti à 80 km à partir de là. Le résumé est fait, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Mais là, par contre, juste pour cette petite brouille, je dis brouille, hein, j'en sais rien, mais ça commence à être de plus en plus difficile, hein, on va pas se mentir. Ah, voilà.
Oui, il y a une rivalité qui s'installe et arrivera. Moi, j'attends juste le moment où elles vont finalement se tirer dans les pattes et perdre une des grosses courses qui va arriver probablement. Maintenant, pour l'instant, elles sont encore tellement au-dessus que ça risque pas d'arriver.
Il y a quand même une marge qui est.
Il y a encore de la marge, hein, quand on voit le démarrage de Kopecky, ah ouais, dans la montée finale. Bon, bah, ouais, c'est bah, bon. Longo, il y a de la marge. Même si, pour l'instant, même si on pourrait imaginer qu'elles roulent un peu n'importe comment, elles sont tellement encore au-dessus que, ma foi, pour l'instant, il n'y a pas de dégâts. Mais ce qui va être problématique pour Vollering, c'est se débarrasser de l'autre Kopecky à Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Ça va être quelque chose de compliqué.
Ouais, on va voir dans les prochaines semaines, on posera la question à Jérémy qui adore le cyclisme féminin et qui adore aussi ce genre d'histoire, j'en suis sûr. Allez, on termine sur Tirreno pour son attaque, on n'attaque pas. Je sais que tu es sur place, James, mais je vais donner la parole à Théo parce que tu viens de parler sur les filles, juste pour savoir, je sais pas, qu'est-ce que tu... Il y a plusieurs choses, il y a Philippe Sen qui a gagné le premier duel après il est tombé, il y a Kevin Vauclin qui est bien placé, on a vu un peu de sprint, voilà, un peu de chrono.
Moi, c'est Kevin Vauclin, très bien. Ouais. Très bien, troisième, un peu à la surprise générale. Je pense qu'il était là pour ne pas prendre de cassure. Finalement, le dernier virage fait que sa carabistouille devant, il se retrouve devant et il va faire 3. C'est son premier podium en World Tour, d'ailleurs, il me semble.
Oui.
C'est surtout très bien pour, je pense, son équipe, parce que là, actuellement, il est troisième du général.
Tout à fait.
Oui, c'est ça. Enfin une course d'une semaine où il a un test grandeur nature face aux quelques-uns des meilleurs du monde, parce que ça a toujours été un petit peu biaisé, il est arrivé pas bien l'année dernière, la Vuelta c'était pas du Kevin Vauclin à 100%, donc très curieux déjà de voir sa fin de semaine. Et puis surtout Arkea, je sais qu'on va reparler des points, c'est chiant, etc., mais on est à mi-classement lycée des 3 ans à peu près, là on va arriver quasiment au 1 an et demi. Et Arkea, c'est pas ouf pour l'instant. On sait qu'ils ont une armada de sprinters pour aller faire des points sur les courses d'un jour, etc. Et là, ça pourrait faire du bien, surtout si on va chercher un top 5, 10.
Ah oui.
On va l'espérer sur Tirreno. Donc moi, je suis très... j'ai vraiment envie de surveiller. Et puis, petit coup de cœur quand même sur... C'est certes anecdotique, mais la 10e place de Romain Grégoire sur un chrono tout plat.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas mal quand même, hein. On s'inquiétait de la Groupama FDJ.
Dans le même temps que Kéanès Vingegaard avec son nouveau casque.
Franchement,
c'est pas mal. James, qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de ces quelques jours de Tirreno? Alors que
une il va dire Philipsen, sera... il est belge.
Ouais, Philipsen. Bon, Philipsen, le karma, hein, parce que il a dit ouais, j'ai un problème de vitesse dans le sprint ou un truc comme ça, mais j'ai gagné quand même parce que je suis facile. Je fais un gros résumé. Hein, il a pas dit ça exactement. Et le lendemain, il tombe. Mais bon, qu'est-ce que tu retiens?
Je retiens surtout la dernière phrase, le karma, ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment pour taper dessus gratuitement.
Ah oui.
Non, non, je retiens qu'il revient, qu'il a remontré qu'il fallait pas l'oublier. Donc pour l'instant, je pense que la Belgique tient en serrant les deux plus rapides à l'heure actuelle, sans prétention, Merlier et Philipsen. À l'heure actuelle, à l'instant T, ça peut changer dans deux semaines.
Ça, c'est clair.
Tu sais s'il a adapté sa préparation au classique plus qu'au sprint
Oui. Il a vraiment envie de marcher. Maintenant, je pense qu'avec Van Der Poel, ce sera difficile de s'exprimer. Et je pense qu'il y aura une limite sur des courses comme E3, sur les vraies Flandriennes, comme on dit, mais un grand level game. Franchement, c'est dans ses cordes. Il faut évidemment un scénario de course pas trop... Il ne faut pas trop attaquer, trop loin de l'arrivée. Il faut un peu essayer de voir un scénario positif pour lui, où ça peut se regrouper. C'est sûr qu'il ne va pas faire des différences en attaquant lui-même. Hein. Il veut essayer de suivre et d'être là dans la dernière ligne droite. Et là, il peut évidemment scorer. Paris-Roubaix, tout est possible. Il a la puissance, ça c'est sûr. Pour le reste de ce Tirreno, je retiens surtout le chrono stratosphérique d'Ayuso.
Ouais,
on va en parler de dingue, mais je vais pas m'étendre là-dessus puisque je sais que tu veux faire une catégorie sur UAV et ses galactiques. C'est un bon teasing pour le Real de Madrid, ça. Hein.
Non, mais
je retiens Vauquelin, il est en mission top 10, peut-être même plus, top 5 sur Tirreno, il est là, il est présent, il est attentif, bien placé. Et qui sait, on parle de points UCI, mais je regarde ici, une cinquième place, par exemple, ça ferait 225 points d'un seul coup. Ah, et ça ferait plaisir hein, à Kevin Vauquelin, qui montre, je trouve toujours que ce garçon est un peu sous-estimé, et pourtant il est complet. Il sait tout faire, ce gars. Il a un chrono, et ça, quand on pense à gagner un grand tour avec un Français, ben, ce gars-là, il en a un des chronos. Donc, s'il peut s'aguerrir en montagne, c'est peut-être lui le meilleur espoir français à court terme sur un grand tour. J'exagère peut-être.
22 ans, on verra en tout cas ce qu'il peut faire sur Tirreno.
Il est encore jeune en plus.
Très curieux. Et ça, j'ai entendu Tirreno qui est pour l'instant mené par Juan Ayuso, qui fait partie donc de l'équipe UAE Team Emirates. Et on en parle tout de suite.
Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Et on en remet, donc on allume la mèche avec nos amis de UAE, Superstar, est-ce la nouvelle superpuissance sur les grands tours? Voilà la question qui est posée, parce que souvent on a encensé la Visma aujourd'hui, avec, c'est difficile d'aller les chercher, on a vu les premiers recrutements avec notamment Yates pour Second Epoch Adjar, mais maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, c'est quand même la première équipe au classement, on a Ayuso qui mène Tirreno, on a vu Pogacar sur l'Estrade, même si c'est pas les classements généraux, mais bon, ça reste Pogacar. Almeida est aussi là, très bien. Adam Yates, très bien aussi. Del Toro est en train de se montrer. On a encore du McNulty, du Fisher Black, du Sivakov, du Vine. Non, vraiment, les gars, on est vraiment sur une équipe qui est en train de monter en puissance et qui peut dominer, en tout cas, cette saison. Et enfin, j'ai envie de dire, non, est-ce que vous y croyez? Théo, est-ce que tu y crois?
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas Jonas Vingegaard dans leur équipe.
Oui, ça sera peut-être dans les prochaines années. Bon, ils recruteront. Mais en attendant, on voit sur le chrono par équipe de
Paris. Oui, mais c'est pas parce que t'en tasses que tu vas être. Alors, certes, ça te donne des cartes en plus, mais.
Regarde le PSG, ils ont entassé les grands stars et ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Hein.
Oui.
Alors peut-être ça arrivera un jour. Hein.
Attends, c'est pas terminé. Mais par exemple, tu prenais les Galactiques du Real Madrid. Je suis désolé, mais ça fait quelque chose au bout. Donc voilà.
Y a ça fait quoi?
Il y a les deux exemples. Ça a gagné quand même une Ligue des Champions au bout d'un moment, non?
Hein? Les Galactiques? Jamais.
Ouais, juste avant.
Ils n'ont rien gagné, les Galactiques.
Mais s'ils ont gagné. Attends, je vais vérifier en attendant. Pour les vrais...
je tiens à préciser que les podcasts football, c'est ailleurs.
Oui.
En fait.
Bon, continuez. Alors la question, non. Est-ce qu'ils
peuvent
dominer
cette... C'est pour ça qu'on prend cet exemple-là. D'ailleurs.
Est-ce qu'ils peuvent dominer cette saison?
La saison, oui, puisqu'ils y caracolent en tête du classement UCI comme ils le font ces deux dernières années. Mais parce qu'à la fois aussi, Visma vise ses courses et s'aligne pas sur tout. Après, ils ont l'effectif, évidemment, pour briller sur les courses d'un jour, sur les grands tours. Et ils ont Ayuso. Mais le problème, c'est qu'Ayuso, il va sur le tour avec Pogacar cette année. Donc, alors, je pense qu'Ayuso est en backup au cas de défaillance une nouvelle fois de Pogacar. Je pense qu'on a appris des deux dernières années. Alors, en revanche, moi, le problème, c'est que l'épine dans le pied, en effet, Kuss, à mon avis, ça reste une surprise. Roglic, on est toujours en questionnement. Mais tant qu'on a Jonas Vingegaard, pardon, en adversaire principal numéro 1 qui se prépare pour son objectif-là, moi, ça me paraît difficile, même en agrégeant le plus de talent possible.
James, est-ce que tu penses que UAE peut quand même dominer sur... Parce qu'on le voit, là, je prends l'exemple du chrono par équipe de Paris-Nice, on voit quand même qu'ils sont très forts, on voit les jeunes qui sont en train de monter et tout. Et quand on voit aussi que, par exemple, la Visma perd un Roglic, même si ça récupère Jorgensen et tout, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à jouer.
Mais pour ce Tour de France, en tout cas, ils doivent être dans le match au niveau collectif par rapport à Visma. Ce serait impardonnable. Moi, quand je vois la compo provisoire, là, ce serait complètement fou qu'il ne soit pas dans le match avec cette équipe-là. Oui, Vingegaard est un robot qui ne donne aucun signe de faiblesse. C'est vrai, c'est vrai. Et ce sera encore difficile d'aller le chercher. Mais derrière, collectivement, UAE est en train de s'aguerrir.
Ah, c'est le meilleur effectif du monde, il n'y a pas de souci là-dessus.
C'est terrible.
Parce que tout le monde est d'accord. Hein.
Ouais, voilà. Donc, normalement, si tous ces gars-là dont on parle continuent leur progression logique, à terme, je crois qu'UAV va dépasser Visma en termes de collectif. Maintenant, il faut voir par rapport aux Danois volants, intouchables. Infaillible. Est-ce que ça va continuer encore? C'est ça la question.
Non, mais
c'est
après, regardez aujourd'hui sur Paris-Nice, ils étaient 4,
ouais,
donc 4 leaders après le chrono qui gagne hier. Très bien. Ce matin, on se posait tous la question pour qui on va rouler, quelle est la carte, machin. Tout le monde disait sensiblement un léger avantage à Joao Almeida comparé à Jevine et McNulty qui avaient un peu chié dans la colle à UAE. Voilà, on donnait un petit avantage à Almeida. Résultat, ce soir, quel est le premier UAE? C'est Brandon McNulty, je pense,
ouais.
Qui a perdu son maillot.
Oui,
voilà.
Qui n'a pas réussi à accrocher.
En fait, t'as beau empiler, si t'es pas plus fort que les deux plus forts de la course, bah, à un moment, t'es à ta place.
Mais peut-être aussi que la solution, qui va rouler pour l'un ou pour l'autre. Est-ce qu'un Ayuso veut rouler pour un Pogacar, par exemple? Almeida, on connaît aussi, il a un petit peu de mal à se mettre en équipier. Adam Yates, on a eu des doutes, il l'a fait. Del Toro, c'est encore en train de se construire. Fischer Black, Sivakov, il en était pris pour ça notamment. McNulty aussi. Mais est-ce que c'est pas le mélange qui aura du mal à prendre alors que Visma, bon, sauf sur la Vuelta, ça l'enlève, mais sinon, il y a toujours eu... un leadership qui a permis de lisser un petit peu et de travailler que pour un seul.
Moi, je crois sincèrement que ça va bien se passer parce que Poggi, pour avoir été à la Strade, les mecs, ils ont beau avoir fait un début de saison canon, les Hirschi, les Wellens, directement
oui,
dans les déclats.
Hein. Ils savent qui est qui.
Ils savent Tadej, c'est le boss. Voilà. Et Almeida, je peux vous garantir que les déclarations qu'il a eues, genre, ouais, moi, je vais quand même penser à mes petites chances personnelles. Ne vous inquiétez pas, il va bien être rangé au vestiaire. Je mets ma main à couper que s'il n'a pas participé au Tour d'Algarve, c'est à cause de ça.
Ah.
J'en suis sûr.
Ouais, donc
c'est Tadej le boss et c'est indiscutable. Maintenant, ça n'empêche pas d'imaginer d'avoir un plan B. Et c'est pour ça que cette semaine, le test, le match Ayuso-Vingegaard sera hyper intéressant.
Intéressant.
Ça va donner des réponses. Ça va donner des réponses. Alors là, il a 22 secondes d'avance. Bon, c'est beaucoup et peu à la fois, mais ce sera hyper intéressant. L'étape de je ne sais plus laquelle,
c'est l'avant-dernière,
je crois, voilà, elle va être très instructive et elle va justement aussi permettre de peaufiner un peu le plan pour le Tour de France. Est-ce qu'Ayuso est en mesure, sur une ascension comme ça, de faire le match avec le double vainqueur du Tour de France? Si oui, ça va forcément influencer. Sinon, Poggi est le boss et Ayuso devra rouler comme Yates l'a fait, tout en se disant bah, attention quand même à ne pas se donner non plus dès le kilomètre zéro, mais en gardant un petit peu pour faire un classement général. on ne sait jamais. Yates, troisième. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une chute. Sauver les meubles. Donc, voilà.
Bon, moi, voilà, je suis intimement persuadé qu'au-delà de l'instant T de cette saison, de la saison prochaine, etc., que UAE prépare depuis 2 ans l'après Vingegaard. C'est-à-dire que certes, ils ont Pogacar qui est le meilleur coureur du monde. Ils savent que Jonas Vingegaard est le meilleur coureur de grand tour du monde. Ça fait une petite différence. Et pour moi, ils cherchent le successeur de Vingegaard. Parce que pour moi, je pense que Vingegaard, à un moment, ne pourra plus tenir ce niveau de sacrifice et ce niveau... C'est un point de vue personnel. Hein.
Oui.
Je pense que, c'est, que Jonas Vingegaard vieillira moins bien. Et donc, c'est le sens des recrutements depuis quelques années de UAE qui recrute de plus en plus jeunes et de partout, de tous les profils. C'est-à-dire qu'on cherche. On cherche sa pépite, tout comme la Visma cherche sa pépite également avec Nordhagen, avec Strand Agnes pour les classiques, etc. Donc je pense qu'Ayuso, il est plutôt programmé, et encore plus Del Toro, pour la succession. Et c'est pour ça, ça reste dans mon fil de pensée qui me fait dire que malgré l'effectif qu'ils ont, tant qu'il y aura Vingegaard, ce sera compliqué pour UAE. Pas impossible, je dis pas impossible. Je pars du principe juste qu'ils passent avec un palier en moins, en tout cas une carte en moins à chaque fois.
Oui, il y a une question de quelque chose sur un vélo qui dit est-ce que les jeunes ne seront pas cramés plutôt ceux qui performent
ouais, maintenant.
Alors c'est une question qu'on ne répondra pas aujourd'hui, mais en tout cas oui c'est intéressant et on verra surtout avec cette génération dorée on va dire avec des Remco, avec des Pogacar et tout, on verra dans quelques années ce que cela peut donner parce que c'est vrai qu'on est toujours intrigué de voir jusqu'où ça peut aller si on est plutôt dans le système un peu de la natation pour ceux qui suivent un petit peu tous les sports où les coureurs, les nageurs arrêtent quand même assez tôt et prennent leur retraite assez tôt parce qu'il y a une forme de lassitude. En attendant, UAE, Team Emirates est premier donc cette saison avec 13 victoires. C'est l'équipe qui a le plus gagné.
Ça, quand tombe, même, hein.
Ça tombe bien parce que ça va vous servir pour le quiz.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
Alors, aujourd'hui...
S'il faut trouver les 13 vainqueurs du UAE...
Non, j'ai voulu un moment, mais j'ai changé. Aujourd'hui, c'est un tout petit quiz assez rapide. Avec une sorte de ping-pong, un tennis de table pour faire honneur à la médaille d'argent aux mondiaux hein, de l'équipe de France. Voilà. Donc, c'est un ping-pong sur 3 thèmes. En gros, c'est simple, je vais vous donner un thème. À chaque fois, vous allez me dire... je veux dire une équipe, un coureur qui est dans ce thème. Et jusqu'à temps que le premier se trompe, il a perdu. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
C'est moins bien expliqué que Jérémy Sakian. Par exemple... Le premier thème, c'est les 10 meilleures équipes de la saison. Voilà, les 10 meilleures équipes de la saison en classement avec les nombres de points. James, par exemple, va commencer, va dire...
Oula, il y a un micro d'un invité là qui...
Oui, il y a un invité qui est venu se joindre à nous.
Un invité mystère. Là.
C'est ouais. Cactus qui voulait jouer avec nous. Mais viens jouer avec nous, Cactus. Est-ce que tu nous entends?
Oui, c'est bon.
Ok, bon, alors, écoute les explications.
Donc, j'annonce qu'on a perdu.
Ouais, écoute les explications. Je vais vous donner la parole, donc, un après l'autre.
Tu as perdu.
Et donc, du coup, par exemple, pour les 10 meilleures équipes de la saison, vous allez me donner une dans les 10. Une fois qu'elle est dite, l'autre concurrent ne peut plus la donner. Jusqu'à temps que quelqu'un se trompe et est éliminé, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul qui reste.
C'est quoi les meilleures équipes? C'est-à-dire au classement UCI?
Au classement UCI.
Ou des classements des victoires?
Classement UCI, je vais d'ailleurs le chercher pour que ça soit bien.
Ouais, mais classement UCI de l'année 2024 ou sur le classement lycée sur 3 ans?
Alors,
tu dis ça pour trouver la bonne page?
Ouais, je trouve la bonne page. Moi, j'ai celle.
J'aimerais bien, ouais.
J'ai les 10 meilleures équipes de cette saison.
Ah, on était
au 5 mars.
Ah,
au 5 mars.
Allez, James, tu commences.
J'ai les équipes masculines?
Les équipes masculines, bien sûr, Cactus, voyons.
Bon, alors, je vais prendre facile, UAE, Team Emirates.
C'est une bonne réponse. Théo?
Visma.
Visma, c'est bon. Pour l'instant, vous êtes dans l'ordre, premier et deuxième. Ensuite, Cactus.
Décathlon, AG2R.
Qui est troisième, c'est-à-dire qu'il est chaud, parce que moi, je n'aurais jamais dit Décathlon, AG2R. Qui est troisième. James, c'est à toi. Il nous reste 7, du coup.
J'ai déjà peur là maintenant, ça me saoule ce jeu. Qui a bien marché? Ah, Israël a bien marché.
Israël a bien marché, Israël est 12e. Au revoir, James. Théo, à toi.
Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Groupama, je suis sûr.
Groupama FDJ, 7e position, c'est bon.
Bah, oui, bien sûr, on en a parlé en plus.
Cactus à toi. Ouais.
Ah. L'autodestiny.
L'autodestiny, 4e position, mon cher James. C'est une bonne réponse. Théo, tu reprends la main à ton tour.
Lidl.
Lidl Trek, 8e position. Il reste encore, attendez, je vais... 1, 2, 3, 4, Cactus.
Ah, Jayco.
T'as dit la Jayco. La Jayco est 11e. C'est une victoire de Théo. Premier point pour Théo. Donc, il y reste encore deux. Hein. Je vous ai fait trois thèmes aujourd'hui. Premier point pour Théo. Deuxième thème. Étant donné qu'on a beaucoup parlé des jeunes qui sont très forts depuis le début de l'année, les 10 meilleurs jeunes moins de 23 ans de cette année, j'ai été sur les points Pro Cycling Stats. Attention, pas UCI, parce que
ça,
voilà,
j'ai mis ça de côté.
C'est compliqué.
Moins de 23 ans.
Je vais donner un indice. James, il y a des Belges. Voilà, c'est un indice que je te donne. Et donc, du coup, on va commencer par Cactus cette fois-ci. Tu finiras, James. Eh oui.
Un Belge, Van Hetvelt.
Van Hetvelt qui est en première position cette saison. C'est bon. Théo.
Fischer Black
est donc cinquième. C'est une bonne réponse. James.
Del Toro,
septième position. C'est bon. On refait un tour. Cactus.
Lenny Martinez,
quatrième position. C'est bon. Théo. Il reste encore des obvious, on va dire. Il y a des noms plus compliqués, mais... Attention, Théo. Tu joues la montre. Tu as plus que 3 secondes. 3.
Je vais tenter Ayuso.
Ayuso, troisième position, c'est largement bon. C'est une bonne réponse. James.
J'espère qu'il a moins de 23 ans, Laurence Pitti.
Laurence Pitti est deuxième, bravo les gars. Il reste encore 1, 2, 3, 4. Et c'est, il reste, alors pour vous dire, le 6e, le 8e, 9e et 10e du classement. Cactus, c'est à toi.
Le Serre Junior.
William, le Serre Junior, 10e, c'est une bonne réponse.
Oh, ouais.
Bravo, joli. Il ne reste plus que 3. Théo, à toi.
Il reste 3.
3.
Un des indices, non?
Non,
ah, j'en ai un. Ah, ok, bon, bah alors je donne pas d'indice.
Oh là.
J'en ai un, mais c'est pas sûr qu'il est bon. C'est ça le truc.
Enfin, ouais, moi aussi j'en ai un, mais je pense qu'il sera pas bon. Moins de 23. Hein.
Ouais, il y a un obvious et deux plus difficiles.
Je vais tenter Morgado, il a beaucoup couru.
Morgado, ah non, ce n'est pas dedans, Morgado. Donc c'est Telly.
Ouais.
Je sais pas combien. Je vais regarder en attendant combien il est. James, à toi.
Non, mais j'allais dire celui-là, donc ça tombe très bien.
Morgado, il est 18e.
Ah ouais, 18e. Pourtant, il a été très fort.
Je fais pas le classement.
Alors, ça me met complètement dans les choux avec tout ça, moi.
Oui, attention, si tu te trompes, c'est Cactus qui emporte cette deuxième manche.
Oh, Romain Grégoire,
c'est pas bon, 15e de la saison. Il restait encore Olaf Koy. Il restait encore Oscar Ennui. Il restait encore Bastien Tronchon, mais sauf que ça a été mis à jour entre temps à laquelle j'ai regardé. Kevin Vauclin vient de rentrer dans les 10. Voilà. Je viens de le voir, mais j'avais pris juste avant la fin de cette étape de Tirreno.
Ma foi.
Attention. Dernière manche, et c'est Théo qui va commencer cette fois-ci. Ensuite, ce sera James, ensuite Cactus, parce que c'est le plus fort.
C'est l'effectif de l'auto ?
Non, c'est 13 victoires cette saison pour UAE.
Ouais.
13 victoires. Ouais. Vous allez donc me donner le coureur qui a une victoire. Et si en plus, vous avez la course,
ça va
donner un petit point bonus pour la fin s'il y a besoin de départager. Voilà. Donc, on peut commencer avec toi, Théo, qui a remporté, qui a gagné une victoire cette saison, c'est UAE. 13 victoires au total.
Bah Adam Yates,
tu as la course ?
Il a gagné à Oman.
À Oman, tout à fait. Bonne réponse. Adam Yates à Oman, ça change donc la main. Et pour James ?
Eh bien, Juan Ayuso, le contre-la-montre.
Juan Ayuso, c'est bon.
Une contre-la-montre de quoi ?
Ah ouais, contre-la-montre
de Tirreno.
Ok, d'accord. Cactus, à toi.
Est-ce que le contre-la-montre par équipe, ça compte ?
Alors, c'était une surprise, j'aurais pu la donner, c'est bon, ça compte.
Non, mais
je te
tu
la
as trouvé où là ton participant là,
bah, c'est bon, c'est une bonne réponse. J'ai été mes winners cette saison. L'équipe entière est donc vainqueur. Donc, ça veut dire que tu repasses à Théo pour un nouveau tour.
Pogacar sur l'estradé.
Pogacar sur l'estradé, c'est vrai que personne ne l'a dit, c'est une bonne réponse. Il reste encore 1, 2, 3, 4 vainqueurs encore cette saison. Et ensuite, si jamais vous donnez tous les vainqueurs, on fera les courses.
Il y a aussi Fisher Black qui a gagné la Muscat Classic.
Ben c'est bon. Fisher Black, c'est bon. Cactus.
Fisher Black aussi sur une étape du Tour de Man.
Alors, je ne te l'accorde pas. Ça sera quand on aura trouvé tous les vainqueurs. Donc, trouve un autre vainqueur. Tu ne l'as pas perdu.
McNulty sur le chrono de l'UAE.
C'est une bonne réponse. Théo, à toi. Il reste donc encore 1, 2, 2 gagnants. Donc, si jamais vous les trouvez tous, on va passer aux courses.
Hirschi sur une des deux boucles, mais alors.
Hirschi, c'est bon. C'est sur la faune Drôme classique.
Ouais.
James, il te reste le dernier. Qui est le dernier vainqueur cette saison du AE?
Donne-moi 5 secondes, s'il te plaît.
Oui, bah, le temps que. Ah non. Ça serait Anthony, je ne te l'aurais pas laissé parce que je connais un petit peu ce qu'il
t'en a parlé en plus.
Oui, c'est vrai.
Ah, merde. On a parlé. Si j'en ai parlé, c'est encore plus triste. Ah, merde. Zut.
Tic-tac, hein, comme on dit en Espagne. Hein.
Ah. Allez, 3 secondes, James. 3.
Del Toro, Tour d'Under.
Del Toro, bravo, c'est une bonne réponse, Del Toro, Tour d'Under. Vous voulez tous égalité. Alors, du coup, Cactus, j'ai déjà ta réponse pour Finn Fisher Black sur le Tour de Man que tu as donné. Il me reste donc, vous venez donné Brandon McNulty pour UAE. Donc, il me reste sur les victoires, une victoire d'Ayuso et deux victoires de Brandon McNulty.
Moi, je sais.
Théo, vas-y.
Je sais.
McNulty, c'est en Espagne. Tour de Valence.
Tour de Valence, c'est bon. James, si tu réponds, vous êtes égalité. Je mettrai égalité et vous serez tous vainqueurs de cette manche. Tu me réponds, où a gagné Royan?
Ayuso a gagné. Ben, il a gagné aussi sur les manches françaises alors.
Peut-être.
Ah non, trophée au Laguelia. Non, c'est Lenny Martinez. Non, j'ai rien dit, je corrige. Alors, non, c'est bien, il a gagné en France.
C'est pas une réponse, ça.
Ah oui,
il a
c'est
gagné
pas
en
une
France.
Réponse, il a gagné en France.
Ah, il a gagné l'autre manche que Hirschi n'a pas gagné, voilà.
Ça me plaît plus. C'était la faune Ardèche classique, j'ai accordé tout à l'heure, c'est bon. Messieurs, vous avez été très bons sur eux, vous avez bien suivi. Et il y avait donc McNulty qui avait gagné une étape du Tour de la Comité de Valence, mais bon, je ne vais pas le donner parce que, évidemment, vous avez tout donné. Bravo. Vous étiez.
T'as une question bonus?
J'ai une question bonus. Bah, d'accord, attendez, je vous fais une question bonus.
Combien des partages?
Ouais, alors.
J'ai gagné, non? Il n'y a pas 2-1 là?
Non, parce qu'il y a Cactus qui a gagné la deuxième manche.
Ah oui, ça fait 2-2.
Très, très facile. Est-ce que vous pouvez me donner le coureur? Non, Mats Pedersen est premier au classement des victoires. Si vous me donnez le nombre de victoires cette saison, vous me dites le nombre. 7 pour James. C'est le premier qui répond. Enfin, voilà, c'est. Si jamais c'était 7, James. C'est 7, James.
4.
4. 7. Et Cactus, tu dis combien pour Mats?
6.
Nous avons un gagnant. C'est celui que l'on ne voit pas à l'antenne. C'est Cactus. 6 victoires pour Mats Pedersen cette saison. Voilà, vous avez voulu vous départager. Et donc, c'est lui.
Bessège avec une étape et la Provence avec 3.
Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez, on lui coupe le micro à lui, là. Allez, hop, là.
Ça va.
Hop, tiens, je le mute, là.
Je regarde quand même si t'as pas été magouillé le truc.
C'est bon, je l'ai muté, on l'entendra plus. Parce que c'est bon, il a trop ramené sa science. Cactus est beaucoup trop fort. Il a gagné le quiz.
Je suis désolé, moi, une victoire, c'est quand on lève les bras. Donc, ça fait 4.
Bon, ça me va. Beaucoup trop fort. C'est la dernière fois, Hugo. Paris, quand même, pour finir.
Non, mais ça fait 6.
Ah, c'est même pas vrai. Bon, allez, qu'on mette Paris,
c'est vrai. Très rapide, les gars. Vous êtes tous les deux plutôt du côté de Tirreno. Donc, c'est très simple. On va dire qui va gagner Tirreno pour vous, plutôt que faire Paris-Nice, puisque vous êtes plus du côté italien. Qui va remporter Tirreno? On a parlé de Juan Ayuso, on a parlé de Jonas Vingegaard, on a parlé de Kevin Vauclin, peut-être pas pour la victoire. Est-ce que, en attendant, je vais regarder un petit peu les cotes, si vous voulez. Mais Qui pour vous va remporter Tirreno Adriatico?
James, vas-y.
J'aimerais bien pour vous Vauclin, mais j'y crois pas, malheureusement pour lui, mais ce serait formidable.
Vingegaard est à 1,45, Juan Ayuso à 2,75, et ensuite c'est à 15, Martinez, Hindley, O'Connor.
Vingegaard, malheureusement, je crois qu'il mettra tout le monde d'accord dans la sixième étape. Maintenant, 22 secondes, mais il y a aussi des bonifs, donc il suffit de 12 secondes sur Ayuso, c'est pas tant que ça à aller rechercher, donc.
Ouais,
Vingegaard
aussi.
Vingegaard fait la cote à 1,45. Si vous voulez, il y a Henrik Maas aussi à 60 pour ceux qui ont envie de jouer un petit peu.
La cote du top 10 de Romain Grégoire, elle est à combien?
Non, alors là, on n'a pas ça. On a le vainqueur de la prochaine étape, si tu veux, au Jesper.
Non, mais en vrai, vraie question de savoir s'il va tenter quand même de s'accrocher.
Top 10, tu serais prêt à parier?
C'est un peu long pour lui, c'est pas dans sa filière, etc. Mais bon.
Mais il s'est un peu accroché quand même dans les différentes classiques, notamment aux boucles, etc., où il a montré qu'il pouvait suivre
les boucles, c'est quand même des efforts beaucoup plus courts, beaucoup plus dans sa filière de puncher. Donc c'est quand même moins comparable à la montée finale, notamment de samedi, qui est vraiment.
Mais il était aux côtés d'Ayuso, ce qui est le Moseux, c'est pour ça que je dis ça, des coureurs qui sont plus type grimpeurs. Donc très bien, Vingegaard pour vous deux, et donc vous ne croyez pas, en tout cas sur le papier, à la victoire de Ayuso. Merci messieurs en tout cas d'avoir été avec moi ce soir. Merci à tout le monde d'avoir parlé dans le chat. Pas merci à Cactus sur un vélo d'avoir remporté le chat.
Pas merci. Précisément. On l'accueillera plus d'ailleurs.
Ouais, c'est la dernière fois. Non, parce qu'après on n'a plus personne pour discuter. Hein, donc attends. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bon match à tous. Bravo l'Union Salgilloise aussi. Bravo à eux pour leur parcours en ce moment.
Donc quoi, les podcasts sans Sakian, ils sont bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Ça a été plutôt dynamique aujourd'hui, tu vois, James. Ouais. Tu as été très, très fort et comme ça, tout le monde peut être tranquille pour sa soirée. Salut à tous. Cool. À bientôt.
Bye bye.
Ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.